Écoutez, là, ça, c'est une mugilette des bois. Petit oiseau, là, c'est bon à becter, là, coucoule, là, écoutez.
Ah non, ça, c'est un galoupio, ça.
Bon, je prends un galoupio, tu rigoles ou quoi?
Écoute, il coucoule pas, il craquette.
Mais non, mais je te dis que c'est une mugilette.
C'est un galoupio, la rigueur, une pistourelle des prés.
Je t'en dis que moi, c'est... Ah bah non, c'était Gérard.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio B avec ce soir...
Cathy.
Sabrine.
Philippe.
Agnès.
Franck et nos rapporteuses de terrain, Catinou, Alexandra et même Florine. Briques et Pavés, une émission à géométrie variable des bénévoles de la Grange au Parapluie, association atypique, espace de vie sociale qui vous propose tous les mois un éclairage sur un thème qui nous tient à cœur.
Aujourd'hui, émission surprise, le petit oiseau va sortir.
Le petit oiseau va sortir est la formule prononcée par les premiers photographes dès le milieu du 19e siècle à leurs sujets photographiés, pour éviter que ces derniers bougent, qu'ils attendent patiemment et qu'ils fixent l'objectif, un trou dans la boîte noire derrière laquelle se trouve le photographe. Et dans cette boîte noire, toute une mécanique, des lentilles, des produits chimiques pour fixer une image sur une plaque de verre, puis plus tard sur du papier, afin de représenter le réel. Mais pas d'oiseau dans la boîte, une supercherie, un mensonge au service d'une réussite photographique, c'est-à-dire une image idéale, une image nette. Pas de mouvement, pas de vitesse, sinon c'est flou. Le sujet doit être d'autant plus immobile que le temps d'exposition est long. Et pour rappel, petit point historique, c'est un temps d'exposition de plusieurs jours qui a permis la première photographie. Nicéphore Niépce, ça vous dit quelque chose? En fait, l'expérience, le premier, après des années de recherche, il parvient en 1824 à fixer sur une pierre recouverte de goudron un paysage, la vue de sa maison natale, après plusieurs jours d'exposition. L'ingénieur de province, Niépce, enthousiaste, écrit alors à son frère. Je passe le micro à Philippe, qui va incarner Nicéphore.
J'ai la satisfaction de pouvoir t'annoncer enfin qu'à l'aide du perfectionnement de mes procédés, je suis parvenu à obtenir un point de vue tel que je pouvais le désirer. Ce point de vue a été pris de ta chambre, et je me suis servi à cet effet de ma plus grande chambre obscure et de ma plus grande pierre. L'image des objets s'y trouve représentée avec une netteté, une fidélité étonnante, jusque dans ses moindres détails et avec leurs nuances les plus délicates. Comme cette contre-épreuve n'est presque pas colorée, on ne peut pas bien juger de l'effet qu'en regardant la pierre obliquement. C'est alors qu'il devient sensible à l'œil, à l'aide des ombres et des reflets de lumière. Et cet effet, je puis le dire, mon cher ami, a vraiment quelque chose de magique.
Cette première photo est conservée et visible au musée de la photographie à Chalon-sur-Saône. Ce musée qui porte le nom de Nicéphore Niépce, car justement ce photographe, cet ingénieur, est né à Chalon en 1765. Il dispute la paternité de la photographie avec le Parisien Daguerre. Ce musée, le musée de la photographie, retrace l'histoire de la photographie, bien évidemment. Voilà. Il y a une boîte noire géante qui va vous impressionner. Si vous ne la connaissez pas, allez vite à Chalon. Des appareils photo, l'évolution d'utilisation du média, sa place et son rôle dans nos vies. Le musée expose et conserve plus de 4 millions de clichés. À l'heure où je vous parle, justement, l'exposition temporaire « Will Write Soon » est terminée. Dommage. Dommage. Mais quand même, elle se composait de 200 photocartes, supports originaux, échangés au début du XXe siècle aux États-Unis, quand la photo témoigne de la conquête de l'Ouest, de l'Amérique rurale par ses habitants eux-mêmes, qui fixent sur le papier leur vie, leur quotidien, leur activité agricole, minière, les nouvelles sociabilités ou des catastrophes naturelles dont ils sont victimes. Kodak, vous savez Kodak,
oui.
Hein, qui employait beaucoup de monde à Chalon il y a quelques années. Donc, à partir de 1903, propose des appareils photo spécialement conçus pour ces petits formats de cartes qui vont servir à communiquer. C'est un vrai succès. Bon, vous n'avez pas vu et vous ne verrez pas cette exposition. Par contre, je vous conseille l'exposition qui est actuellement à Chaintreuil et tout l'été au musée Chaintreuil de Pont-de-Vaux pour découvrir le travail de Nathalie Baudry qui rencontre de façon originale de la vie dans les campagnes françaises dans les années 50-60 à travers des photomontages qui nous renvoient à nos histoires personnelles et plus largement à une histoire commune. Alors, bonne expo à tous!
Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. J'ai la connerie humaine comme oraison funèbre, le regard des curieux communique linceul. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud, on portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit, je suis pas raciste, mais quand même les bicots, chaque fois qu'il y a un sale coup, ben il faut qu'ils en soient. Moi, monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine.
De mon côté, je vais vous parler d'un monde que je connais mal. Et oui, je ne suis bressane que d'adoption. Et s'il faut dire la vérité, toute la vérité, eh bien, je viens plutôt de la ville. Et j'avoue une méconnaissance assez crasse du monde paysan. Mais je viens de lire une BD qui m'en a appris un peu plus sur l'histoire de la ruralité. Quel lien avec les oiseaux, me direz-vous ? Minute, papillon, j'y viens ! Je veux parler ici de remembrement. En effet, Inès Leroux et Pierre Van Hove, dans leur BD Recherche, nous proposent une enquête. Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement permet d'avoir une vision documentée de cette étape décisive qui a conduit manu militari, la paysannerie, à l'agriculture intensive. Alors la BD commence au début du XXe siècle, et c'est drôle, ça commence dans un petit village breton que je connais bien puisque j'y passe mes vacances d'été depuis de nombreuses années. Bref, quelques pages seulement permettent de... Quelques planches seulement permettent de visualiser en un instant l'évolution du territoire et du paysage sur quelques années. Au début du XXe, d'abord, de petites parcelles, de champs, entourées de bois, de forêts, de haies, de bosquets, des couleurs par milliers. Bref, une très grande diversité. Et puis, sur les planches suivantes, les années défilent. Et au fur et à mesure, on constate l'agrandissement des champs qui deviennent toujours de plus en plus grands et de plus en plus uniformes. Sur la dernière planche, quasiment plus d'arbres, plus de forêts, plus de haies, plus de bosquets et quasiment une seule couleur. Et oui, le remembrement, c'est une redivision des terres arbitraires avec pour objectif seul et unique la rentabilité, l'intensivité de l'agriculture. Il faut rationaliser. Au début du XXe, une première tentative de remembrement s'amorce, mais elle se heurte à l'opposition des paysans. C'est le régime de Vichy, et oui, encore lui, qui va réactualiser cette volonté de l'État de mettre la main sur la paysannerie. Alors le remembrement a grassement profité à quelques personnes, qui seront appelés les profiteurs, les accapareurs, mais a surtout eu pour effet de léser une majorité de petits paysans qui se sont vus retirer leurs terres. Cette expropriation, vous l'imaginez, ne s'est pas faite sans douleur. C'est toute une manière de vivre, de faire corps avec un territoire qui a disparu. Fini, par exemple, en Bretagne ou en Normandie, les petits pommiers qui bordaient les champs et qui permettaient un complément de revenu non négligeable puisqu'ils représentaient un quart du revenu. Fini donc la polyculture. Fini aussi la capacité à mieux s'adapter à une année difficile par manque d'eau ou par excès d'eau, justement. Le remembrement, donc, implique de plus grosses exploitations qui se spécialisent sur une ou deux cultures et qui nécessitent une mécanisation de l'agriculture avec des engins de plus en plus gros et de plus en plus chers, bien évidemment. On le voit, les paysans ont payé le prix fort à cette marche imposée vers le progrès. Mais c'est aussi un lien avec la nature qui s'est effacé et appauvri. Dans ces grands espaces uniformes, de moins en moins de place pour la biodiversité. Plus d'insectes, plus d'oiseaux. À eux aussi, on a volé la terre, l'habitat et les conditions de survie. Alors, je n'ai pas tout à fait fini la BD, mais elle m'a permis de mieux comprendre les luttes passées et présentes de cette paysannerie qui tente vaillamment de faire valoir un autre rapport à la terre. Alors, si l'on veut encore entendre chanter les oiseaux, et toujours les entendre chanter, c'est sans doute tout le modèle actuel de l'agriculture qu'il faut revoir. Je vous conseille donc vivement la lecture de la BD « Champs de bataille, l'histoire enfouie du remembrement » aux éditions Delcourt. Et je vous souhaite une bonne lecture.
Survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, des monuments, des chantiers. Je survolerai des chantiers. Si j'étais un oiseau, même un tout petit,
pour faire le portrait d'un oiseau, prendre d'abord une cage avec une porte ouverte, peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis effacez à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
C'est un endroit rêvé pour les oiseaux. Ils viennent s'y reposer quand leur cœur est gros.
J'ai frappé à ta porte sans te prévenir. À l'âge des amours mortes, t'as su me cueillir dans tes bras pour me guérir. Je reviendrai m'étendre près du parc Laurier. Si tu savais m'attendre, on se marierait quelque part au mois de mai.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Salut les amis, c'est Katinou. Aujourd'hui, pour la rubrique sur les oiseaux, j'avais pensé vous parler du paradisier. Vous savez cet oiseau qui exécute une danse si particulière pour séduire sa belle? Puis ensuite, je me suis dit qu'avec toutes les expressions françaises qui existent, j'allais vous inventer une petite histoire. Je l'ai intitulée « Bird's Date », le rendez-vous des oiseaux. Aujourd'hui, Mathilde a rendez-vous avec son date. Cette petite tête de linotte a oublié l'horaire précis du rendez-vous. C'est pour un repas au resto. Qu'à cela ne tienne, elle ira vers midi. Elle se sent gaie comme un pinson. Elle arrive devant le resto et commence à faire le pied de grue. Son tourtereau arrive enfin après une heure d'attente. Elle ne lui dit rien sur son arrivée anticipée, de peur d'être prise pour une bécasse. Il s'installe à une table. Elle se sent observée. Il a un regard d'aigle. Le serveur leur apporte la carte. Mais elle a un appétit d'oiseau. Max, par contre, lui, a très faim et très soif. Il commande un tagine de canard et une bouteille de vin. Cet homme parle comme un étourneau. Il a vécu beaucoup d'expériences. « Ce n'est pas le perdreau de l'année, pense-t-elle. » Elle se sent hypnotisée par ses paroles. Et elle se sent de plus en plus chaude comme une caille. Elle mange sa salade, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard. Elle boit littéralement ses paroles, et quelques verres de vin aussi. Elle se sent saoul comme une grive. Il lui raconte une histoire qui lui est arrivée la veille. Ouh, il est remonté comme un coucou. Il a rencontré une triple buse, mais comme il n'aime pas faire l'autruche ni se faire pigeonner, et qu'il est loin d'être une poule mouillée, il s'est défendu bec et ongles, et il lui a volé dans les plumes. Mathilde en bâille aux corneilles, et n'apprécie pas trop cette facette de sa personnalité. À la fin du repas, il lui propose un selfie. « Attention, le petit oiseau va sortir !» Qui sait, il va peut-être lui proposer de s'envoyer en l'air. Le rendez-vous se termine, mais au moment de payer l'addition, celui-ci lui fait le coup de « Oh, bah je retrouve pas ma carte bleue !» Mathilde paye le tout et pense « Encore un qui m'a tendu le miroir aux alouettes !» Il lui propose de la revoir, mais il la remercie à peine, ingrat comme un coucou. Elle lui répond « Me revoir ? Bah tiens, quand les poules auront des dents. » Et elle part seule sans se retourner, en pensant « Faute de grive, on mange des merles. Allez, salut l'oiseau, je préfère voler de mes propres ailes. » Et si, comme moi, l'envie de voler comme un oiseau vous prend, eh bien sachez que j'ai testé récemment un baptême en ULM dans le charmant petit village de Saint-Jean-sur-Ressouze, que je vous recommande fortement. Histoire de planer un peu.
Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Beaucourt à Foissia. Merci Pierre de m'accueillir dans ta jolie maison. Alors on se voit parce que tu as un talent qu'on a envie de découvrir. Un petit oiseau qui sort de temps en temps, tu es photographe. Alors comment ça t'est venu cette passion?
Alors la photo date depuis longtemps. J'ai découvert la photo en 1968 à l'armée.
Okay.
Quand j'étais incorporé à la sécurité militaire du centre d'essai des Landes de Biscarrosse. Et après le service militaire, donc quand je suis rentré dans la vie active dans le groupe Péchiné, nous avions un photoclub.
D'accord.
Donc je me suis perfectionné à ce photoclub.
T'as toujours fait donc, de la photo.
J'ai toujours fait de la photo et je peux dire que j'ai réellement commencé en 1973. Mon principal sujet au départ, c'était les oiseaux.
Ouais.
Les oiseaux, les insectes.
Donc ça te
tout,
permet
tout
d'être.
Tout ce que comporte la nature.
Ça te permet d'être en contact aussi.
En contact avec la nature et mais je fais toutes sortes d'oiseaux. Récemment, cette année, j'ai fait beaucoup de vautours dans le Lot. Mon oiseau fétiche, c'est l'oiseau blanc.
D'accord. Et toi, la passion de la photo, j'imagine que ça te permet aussi de transmettre, parce que tu exposes régulièrement. Là, tu vas exposer donc à Foissia, à la bibliothèque. Tu as exposé plusieurs fois dans divers endroits. On reviendra tout à l'heure à tes futures expositions. Mais qu'est-ce que ça te permet de transmettre, en fait, cette passion?
Ça me permet de faire partager mon plaisir. Ça permet de faire des choses que l'on ne peut pas faire avec un portable.
Ouais.
Voilà.
Bah surtout si on veut capter un oiseau qui est loin,
c'est-à-dire,
ou qui est en mouvement.
Bon, un appareil photo, il y a tellement de techniques qu'on peut faire de tout. Des photos de nuit, de face au soleil, etc., etc.
D'accord. Et est-ce que tu as déjà été approché par des visiteurs d'exposition pour... est-ce que ça leur a déjà permis de découvrir un environnement ou un oiseau ou une situation qu'ils n'auraient jamais vue sans tes yeux de photographe, en fait?
Je dis dans la photo, c'est pas l'appareil photo qui fait la photo, c'est l'œil.
Oui.
Du photographe.
Oui.
Il faut être attentif.
Oui.
Je ne vois pas tout, mais je m'efforce à regarder des petits détails.
En tout cas, moi, ça m'est arrivé que tu partages des photos donc, sur les réseaux sociaux, et notamment de notre village, hein, parce qu'on habite tous les deux à Foissia, et de voir à quel point une photo pouvait révéler la beauté d'un paysage que je vois tous les jours. Je me souviens d'un champ de colza avec un ciel orageux en fond. Le contraste était vraiment saisissant. Et j'ai trouvé ça magnifique, en fait.
La photo, c'est ça. On montre la nature telle qu'elle est. Mais il faut
révéler
quelque chose.
Ouais,
voilà,
tout à
c'est
fait.
Ça.
Alors dis-moi, quand est-ce qu'on pourra voir tes photos? Tu exposes bientôt, tu disais?
Alors j'expose ce mois de mai, le 17 et 18 mai, à la bibliothèque de Foissia. Donc l'exposition, ça sera le samedi 17-18 mai, et qui restera jusqu'à la fin mai, à disposition pour les écoles et pour les jours
les utilisateurs
d'ouverture de la bibliothèque pour les gens qui n'auraient pas pu venir.
Mm-hmm.
Voilà. Eh bien, merci.
Merci à toi, Pierre.
Merci.
À très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
De ce Rue des Pavés, l'émission qui dégrange.
Sur le canot à moteur qui l'a conduit vers Bodega Bay, en Californie, Mélanie Daniels est attaquée et blessée par une mouette. Ce début d'histoire vous cause forcément. Les oiseaux, d'Alfred Hitchcock, est un film américain de 1963. Chef-d'œuvre mondialement connu, le film Les oiseaux fait partie de ces grands mais rares films d'angoisse qui font toujours peur même après plusieurs visionnages. Le postulat est d'une simplicité lumineuse, et si des oiseaux, animaux pacifiques, devenaient soudainement un danger de mort pour les humains? Quelle idée saugrenue! Terreur efficace parce que extrêmement réaliste, résultat de prouesses techniques cinématographiques minutieuses, notamment le regroupement lent et progressif des oiseaux dans le dos de Mélanie à un moment dans une scène, et puis leur attaque à la sortie de l'école, qui restent des modèles de tension et de mise en scène pure au cinéma. On ne se remet jamais tout à fait de ce cauchemar cruel. Ici, dans ce film, Hitchcock laisse inexpliquer l'agressivité de ces oiseaux envers les hommes. De même, il n'emploie que des animaux banals et a priori inoffensifs, moineaux, mouettes, corbeaux, ce qui rend plus insolite et plus effrayante encore leur attaque. Le mystère terrifiant et la gratuité irrationnelle entourant la révolte de ces oiseaux distillent une atmosphère tragique de fin du monde. La civilisation s'effondre en peu de temps, nous sommes quasiment au milieu des années 60. Pour ce film, Les oiseaux, Hitchcock et ses collaborateurs mettent au point des techniques nouvelles afin de rendre le plus réaliste possible les attaques des oiseaux. De nombreuses superpositions de pellicules donnent l'impression qu'une nuée d'oiseaux s'abat sur les victimes. Pour certaines séquences, des animaux mécaniques sont utilisés, rajoutés. À ce titre, ce film, Les oiseaux, se montre particulièrement cruel. Non seulement les attaques sont sanglantes, mais les plus spectaculaires d'entre elles s'abattent sur des victimes vulnérables. Aucun coup de bec ne nous est épargné, et là pour le coup, il n'est pas lieu de dire que le petit oiseau va sortir, surtout pas. Tout cela participe à une atmosphère froide et cruelle du film chef-d'œuvre, Les oiseaux.
Chante avec moi, frangin, pour notre mère la terre, qu'ici-bas il n'est rien qui ne fasse lumière. Nous sommes tous en chemin vers l'obscur ou l'éclair, et perdus dans les craintes de notre mère la terre, envolés sur le dos de l'oiseau liberté, emportés par les crocs de la haine incarnée. Si nous sommes cernés par tous les terrorismes, ceux du son de la haine ou ceux de nos fascismes, s'il faut plus qu'une armée pour protéger nos libres, on ne combat jamais mieux qu'en ouvrant des livres. Pour cela, fusillés qui pour l'éternité resteront le symbole de notre liberté. Nous chantons nos prières, nous chantons pour la terre, nous chantons la lumière contre l'obscurité. Tous les peuples du monde pour lever liberté, quelles que soient les prières pour ne pas oublier, main tendue à leurs frères contre fusil pointé, que nous sommes sur la terre tous frères d'humanité. Nous sommes fils des Ardennes, nous sommes fils de Provence, puis jusqu'aux Aquitaines, nous sommes la France. Nous sommes pays du libre, pays de tolérance, et face à l'assassin nous offrons l'innocence. De l'oiseau liberté face aux horreurs mitraille, nous ne quitterons jamais, oui, le champ de bataille. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est la vie sur terre. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est d'aimer son frère. Mon oiseau liberté ne craint pas les fusils, il ne craint pas les balles de toute tyrannie. Et même s'il s'envole, tué par l'infamie, renaîtra de ses cendres mon oiseau l'infini.
Merle, mésange, rouge-gorge, pinson, verdier ou encore pie, et bien sûr, pigeon ramier. Depuis quelques jours, un peu partout, on entend le peuple des airs comme jamais dans nos milieux urbains. Et on semble redécouvrir leur présence alors qu'ils n'ont jamais disparu, bien au contraire. Ces différentes espèces d'oiseaux des champs, qui vivaient massivement à la campagne, voilà encore une quinzaine d'années, ont fait souche en ville à la recherche d'un nouvel habitat, celui des campagnes, s'étant dégradé avec l'arrachage des haies et la disparition de trop nombreux insectes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Guy Bourlès de la Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique. Et cette info date de mars 2020, première semaine du confinement. Cet épisode, traumatisant à bien des égards, a permis en revanche de montrer que, si on la ferme un peu, nous, hommes et femmes, et que nos machines infernales, auto, moto, tracteurs et avions, se taisent par la même occasion, eh bien, la nature revient à nos tympans, joyeusement. Retour en 2025, et ici dans l'Ain, et toujours avec la LPO. Je vous invite à vous plonger dans la brochure « Seine ouverte sur le patrimoine naturel » éditée par le département de l'Ain et relayée par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Vous découvrirez qu'on peut, ici ou là, à deux pas de chez soi, participer à plein d'aventures et d'ateliers autour de la nature et de la faune sauvage. Ainsi, en juillet-août, la Maison de l'eau et de la nature de Pont-de-Vaux vous mènera en kayak sur la Seille à la recherche des oiseaux et des castors. Le mercredi 6 août, c'est à la lande tourbeuse des Oignons, à Beauze, que vous pourrez observer libellules et papillons. Le 19 août, à Haute-Cour, c'est sous terre dans les grottes que vous irez explorer le monde fascinant des chauves-souris. En résumé, à la productivité et à la vitesse, je préfère la sensibilité et la préservation. Vous aussi, vous avez le choix entre les politiques agricoles hors sol et sensibles ou la déambulation apaisée d'espaces naturels sensibles, nombreux dans notre département. Pour finir, je passe le micro à Jean-Luc Fonck, un drôle d'oiseau, leader du groupe Stella, qui va nous interpréter sa bluette « Nous ne recoulons pas devant les pigeons ».
L'émission qui dégrange.
Notre thème sur les oiseaux, je m'étais dit, tiens, je ferais bien une petite rubrique sur l'oiseau emblématique de la Bresse, qui est la volaille de Bresse. Et puis finalement, je me suis dit qu'on allait peut-être faire un petit quiz, comme ça, vous alliez tous participer.
Ouais.
Que vous soyez bressant d'adoption ou bressant de souche ou quoi que ce soit, pour parler de cette volaille de Bresse qui fait partie de la culture bressane et de l'agriculture bressane aussi. Puisque c'est un atelier qui était souvent réservé aux femmes, mais en complément de ce qu'on appelait la polyculture élevage, puisqu'en Brest, traditionnellement, comme c'est une terre pauvre, avec de l'argile, eh bien, on ne fait pas qu'une culture, mais plusieurs, parce que faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand on veut s'en sortir. Alors, je vous propose un petit quiz en quelques questions pour mieux connaître la volaille de Brest. Première question, qu'est-ce que le CIVB ?
Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
Approchez-vous, Philippe.
Très bonne réponse. Une date maintenant, 1957. 1957, est-ce que ça vous parle ?
Là aussi, mais c'est aussi bien plus vieux.
Et non, 1957, effectivement, c'est la loi d'appellation de l'AOC de la volaille de Bresse. La race de la volaille de Bresse. Quelle est-elle ?
La gauloise.
C'est la gauloise blanche. Ah, bravo, Cathy. Les pattes sont bleutées, la plume est blanche, la crête est rouge.
Donc, ça fait bleu-blanc-rouge.
Ça fait bleu-blanc-rouge. 16 semaines. Qu'est-ce que c'est que 16 semaines ? 16 semaines, c'est le temps minimal pour avant d'abattre la volaille de Bresse.
Il y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poulbeaux. Mais comprenez-moi, la djé là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, il y a des taxis qui ont peur du noir.
mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents, mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est parce qu'il faut sous nos climats, mais comprenez-moi, à Rochechouart, il y a des taxis.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare,
avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Alors, si je vous dis 10 mètres carrés.
Bon, qu'ils aient chacun 10 mètres carrés de terrain.
C'est ça.
Pour pouvoir s'y battre.
Exactement. La loi d'appellation indique qu'il faut 10 mètres carrés par poulet de surface. Mais pourquoi ?
C'est une histoire d'alimentation. Il y a des vers de terre.
Exactement, Cathy, très bonne réponse.
Bravo!
Bravo, Cathy! Donc, 10 mètres carrés parce que l'alimentation céréale, bien sûr, elle est carencée en protéines. Or, une alimentation, pour qu'elle soit équilibrée, il faut aussi de la protéine. Et, mais je vous parle ici du poulet. Mais il y a une autre volaille de Bresse qui a une appellation. Il n'y a pas
la
que le poulet.
Pintade.
Ah non, pas la pintade.
La dinde.
La dinde, la dinde de Bresse. Et elle, quelle est...
C'est des monstres, c'est énorme.
C'est 19 mètres carrés.
Eh bien, tu n'es pas très loin,
mais
bravo.
Dinde,
c'est 20 mètres carrés.
C'est, parce que j'ai
c'est le double.
20 mètres carrés pour gagner un petit peu.
20 mètres carrés. Le chapon de Bresse.
Ah.
Qu'est-ce que c'est qu'un chapon ? Ouais, c'est un poulet castré. Et lui, on va le garder combien de temps ?
33, 34, 36.
Eh bien, on est sur 8-9 mois.
Ah tiens.
Parce qu'il est né à peu près au mois d'avril, et puis on le commercialise uniquement à Noël.
36.
Et la poularde, alors ?
C'est une poule qui a mal tourné, ça, c'est un truc.
Non, ce n'est pas une poule, justement.
C'est un chapon qu'on a pas réussi à castrer ?
Eh non, c'est... une poularde. C'est très complexe, une poularde. En fait, une poularde, c'est une poulette qui peut avoir la chaîne des œufs, mais qui n'a pas encore pondu. Parce que si elle pond, c'est une poule. Eh bien, contrairement aux poules pondeuses où on met plus de lumière, à la limite, il faudrait mettre moins de lumière pour ne pas activer... La ponte. Et je vais vous donner peut-être, j'avais pas pensé à celui-là, mais je vais vous donner épinette.
L'épinette.
Qu'est-ce que c'est qu'une épinette ?
C'est pas la petite cage ?
C'est une grande cage.
Une grande
l'épinette.
Cage.
Effectivement, parce que le poulet de Bresse, c'est la volaille de Bresse, une volaille musclée. Et bien le poulet, on est obligé de le mettre 15 jours dans une épinette. 1,5 kg, minimum, poids minimum. Mais ça peut aller à 2,2 kg, 2,5 kg ou plus. Au minimum pour les engager. Donc, on soupèse. La bague. Est-ce que vous savez ce qu'il y a sur la bague ?
Le blanc-rouge.
Non, la bague, elle n'est pas bleu-blanc-rouge.
Le numéro d'éleveur ?
Oui. Il y a le nom et l'adresse. Pas le numéro de l'éleveur. Le nom et l'adresse de l'éleveur pour la traçabilité. Depuis 1957. Ok. Dernière petite chose, peut-être ? Les glorieuses. Mais donc, les glorieuses, ça existe depuis très très longtemps. Et ceux qui gagnent les glorieuses gagnent un vase de Sèvres. Voilà. Sinon, donc, juste pour terminer, ça a été un petit peu long, mais je terminerai là-dessus. La volaille de Bresse, eh bien, malheureusement, il y en a de moins en moins. Puisqu'en 2014, il y en avait 1,5 million de volailles. Et en 2024, 700 000 volailles. Et en éleveur, de 500 éleveurs, c'est passé à 109 éleveurs.
Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac. Surgissant de tes pas, surgit un aigle.
Et voilà les amis, encore une émission qui se termine. C'était l'émission du mois de mai. Une date à noter, le 7 juin est l'improbable fête des roues à la Grange aux Parapluies.
Je peux vous annoncer qu'à la fête des roues, il y aura la restitution du travail réalisé avec les collégiens du collège de Saint-Trévier-de-Courte, avec les aînés, les pattes de Saint-Trévier-de-Courte. Fête des roues, une journée à la Grange aux Parapluies, une journée pleine de surprises où l'intergénérationnel est de mise, où on parlera des roues de vélo, avec l'accueil d'Apicyclette, une jeune femme, Laetitia Gauthier, qui a fait le tour de l'Europe, le tour du monde à vélo.
Donc Apicyclette sera là pour nous parler sans doute de ses voyages aussi en Amérique du Sud et en Afrique. Mais il y aura plein d'autres choses, Alice Jacquet avec ses cerceaux en hauteur. Il y aura aussi un superbe spectacle à 17h29, notez bien l'heure, le spectacle Pharmal. On parlait du remembrement tout à l'heure, on parlait de la volaille, et bien Pharmal, ça peut parler à plein de gens, c'est l'arrivée de ce Pharmal, un des premiers tracteurs qui est arrivé américain, qui est arrivé dans les fermes. C'est un spectacle musical avec de la musique country, donc je crois un spectacle à ne pas manquer. Et ensuite, il y aura une batucada et puis un concert de Tiny Shuttle. Donc pour tout le monde, à prix libre, bien sûr.
Et la question vous brûle les lèvres, le mois prochain, quel est le thème de Briques et Pavés au mois de juin ? Nous parlerons des tatouages. Dao a chanté que ton épaule est tatou dans les années 80. À la radio, nous ne montrerons rien. Mais nous essaierons de faire témoigner des tatoués. Et nous essaierons de faire témoigner des non-tatoués. Y a-t-il un âge pour être tatoué ? Pourquoi as-tu décidé ce tatouage ? Bref, un thème à fleur de peau. Alors, rendez-vous au mois de juin. Au revoir les amis, salut.
Oui, salut.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange aux Parapluies.
Briques et Pavés,
l'émission qui dégrange.